tous. Oh là là, qu'est-ce que Dieu est bon! Il est vraiment bon. Alors, bienvenue à nos amis visiteurs. Et messieurs, je ne peux que vous encourager de vous rendre à ce groupe-là qu'il va y avoir. Merci, c'est gentil. Parce que vraiment, pour avoir travaillé sur le matériel, il a fallu... le traduire, donc on s'y est mis à plusieurs, l'éditer, etc. Mais allez-y. Y a une chose hein, déjà que l'on voit, c'est que, et c'est ce qui s'est vu également dans la civilisation grecque, c'est que tout est en train de tendre vers la féminisation. Et les messieurs, ils ont besoin de connaître... ce que la Bible dit, et quand la Bible parle d'être un homme de courage, un homme intègre, et puis également de savoir que ce que Dieu veut faire pour vous. Donc, venez. Alors, écoutez, ce que j'ai entendu ce matin, là, c'était juste quand Pasteur Elisabeth a prêché. Vous savez, donc, avant le culte, hein, s'il vous plaît, venez. C'est chaque personne qui est sur chaque personne de l'équipe pastorale, eh bien, prend une demi-heure pour parler de l'éthique chrétienne au travail. Et vraiment, il y avait tellement de choses, j'avais envie de prêcher. Mais bon, c'est elle qui prêchait, donc je ne pouvais pas le faire. Mais c'était extra. Et puis, à un moment, elle a dit, par exemple, elle dit, mais la joie au travail. Et puis, je partageais ça avec André et Nadège tout à l'heure. Et je me disais, imaginez que les chrétiens arrivent au travail avec la joie, la banane. Ils arrivent comme cela, même s'ils n'aiment pas leur travail, parce que les gens pensent que quand on n'aime pas quelque chose, on est obligé de faire la tête. Hello? Hein? Qui a dit qu'on était obligé de faire la tête quand on n'aime pas quelque chose? Mais imaginez comme l'ambiance changerait. Alors, c'est bon pour ceux qui sont employeurs et c'est bon pour ceux qui sont employés. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir encore quelqu'un d'autre qui va intervenir. Les jeunes, franchement, les jeunes, venez. Parce que là, on est en train de vous donner des informations qui peuvent faire que vous aurez une promotion à 30 ans au lieu de l'avoir à 50. Qui a dit? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il suffit d'être au bon moment, au bon endroit, on peut gagner beaucoup d'argent. Vous avez des tas de jeunes qui gagnent beaucoup d'argent. Seulement, comme il leur manque l'éthique, en général, il y a quelque chose qui lâche, et ou c'est leur famille, ou alors ils se suicident, ou alors c'est le stress, la santé. Mais nous, les chrétiens, ça n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, c'était Dieu est celui qui veut vous donner la promotion. Et la promotion, elle n'est pas obligée d'arriver juste la veille de la retraite. Vous savez, quelquefois, ils augmentent le grade d'une personne juste avant qu'elle parte, histoire que cette personne ait une certaine retraite. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, pas avec le Seigneur. Donc, voilà. Je ne vais pas parler là-dessus. Écoutez, alors, voilà, histoire de mobiliser tout le monde là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si je suis moi parce que tu es toi et que tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Mais si je suis moi parce que je suis moi et que tu es toi parce que tu es toi, alors je suis vraiment moi et tu es vraiment toi. Et c'est vrai. À vrai dire, ça c'est un rabbin qui l'a dit. Alors, j'ai relu la phrase hein, pour vous dire la vérité. Je vous la redis, là, histoire que... Parce que certains ont déjà les yeux qui louchent, là. Je vous le redis, histoire de vous donner une occasion de comprendre. Bon, si je suis moi, parce que tu es toi... Certains, je les ai déjà perdus. Et que tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Mais si je suis moi parce que je suis moi et que tu es toi parce que tu es toi, alors je suis vraiment moi et tu es vraiment toi. Et le titre de mon message, qui n'a rien à voir avec cela, c'est histoire de stimuler votre réflexion et bonjour la traduction. Désolé pour ceux qui ont une traduction. Hein. Le titre de mon message, c'est « Existe-t-il des paroles en l'air ?» Alors, je vais continuer sur la série sur la foi. Et on ne peut pas parler de la foi si on ne comprend pas l'importance des paroles. Et j'espère que depuis le temps que je parle sur les paroles, vous êtes en train de mesurer le poids des paroles dans votre vie. Et peut-être que vous vous préoccupez moins de ce que les autres disent de vous. Écoutez le poids des paroles, là. Le 3 juillet 2013, le roi des Belges, Albert II, a annoncé sa décision d'abdiquer et de confier le royaume de Belgique à son fils Philippe. C'est-à-dire qu'en quelques mots, le souverain a mis fin à 20 ans de règne. Voilà le poids des paroles. Le poids des mots, pensez au décompte que font les ingénieurs qui envoient une fusée dans l'espace. Le mot 10, 9, 0 ou feu. Ce seul mot-là a la puissance d'envoyer, pas que la fusée, des hommes et des femmes dans l'espace ou sur une autre planète. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase-là ? C'était des mots. Quand les gens disent « Oh, ce ne sont que des paroles en l'air. Oh, je l'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais dire. » Vous vous rappelez de cette phrase « Casse-toi, pof. » Vous rappelez de ce ne sont que des mots. Est-ce que c'était des paroles en l'air ? Ça a suscité une vague de colère chez les gens. Juste quelques mots employés comme cela. Est-ce que vous vous rappelez de ces quelques mots qui ont été prononcés il y a quoi, une semaine, qui parlaient des Français comme étant les Gaulois réfractaires? Ça a suscité une autre vague de consternation. À propos, il faut le dire, c'était justifié les réactions, hein, parce que si vraiment nous sommes des Gaulois, alors peut-être qu'il va y avoir des réactions de Gaulois, là. Mais les mots. Et pour nous, chrétiens, nous sommes en train d'apprendre que les mots ont la puissance de créer. Les mots sont donnés pour créer. Vous vous rappelez sans doute, dans Genèse chapitre 1, simplement je vous le cite, mais par 10 déclarations, Dieu a créé l'univers et a recréé la terre. Juste 10 déclarations. Lumière. Alors, nous on dit que la lumière soit en français, mais en hébreu, il a juste appelé lumière. Terre, mer. Animaux, plantes, le sec, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Regardez ce que Dieu, juste quelques mots, tout l'univers. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 13, que c'est avec ces mêmes mots aujourd'hui que la vie continue sur terre et dans l'univers, qu'il y a de l'ordre dans le ciel avec la puissance de ces mots. Maintenant, nous avons vu aussi, dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme, l'être humain, forma le corps de l'être humain, de la poussière de la terre, mais il n'a pas simplement formé notre corps avec la poussière. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Les commentateurs disent, et l'homme devint un être parlant, pas un être pensant. Parce que les philosophes veulent limiter l'être humain à un être pensant. Non, l'homme est un être parlant, un être qui parle. Et notamment parce que nous sommes un être qui parle, c'est parce que c'est ce qui fait que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Dans toute la création qu'il y a sur cette terre, nous sommes une catégorie à part. Non, nous ne descendons pas d'un poisson. Non, nous ne venons pas du singe. Non, non, non. Les êtres humains et les animaux sont des catégories qui sont complètement à part. Mais nous, ce que nous avons pour nous, c'est en plus du libre arbitre, nous avons le raisonnement et nous avons la capacité de communiquer intelligemment. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec sa capacité de communiquer intelligemment? Qu'est-ce que Dieu a fait avec sa capacité de parler? Il a eu ce qu'il a voulu. Vous savez, en hébreu, le mot « parole » a la même racine que le mot « chose » d'avare, d'évarim. C'est-à-dire, ne serait-ce que dans le mot parole nous dit qu'il sert à faire des choses. Nous sommes un être parlant parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Mais Dieu nous a laissés sur cette terre pour que nous continuions à accomplir son plan dans notre vie par quoi ? Par nos paroles. Des paroles que l'on lance en l'air comme ça en disant « Non, non, mais tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, ben tu sais quoi ? J'en ai marre, je veux déménager. » Parce qu'en général, c'est quand le « j'en ai marre » précède. Au lieu de dire « Dieu m'a dit de déménager. » Si Dieu te dit de déménager, alors tu prends ces paroles que Dieu te dit et tu les prononces, tu les mets dans ta bouche et il en sera ainsi. Maintenant, si les gens prononcent des paroles en l'air, le jour où Dieu va dire « déménage maintenant, c'est le moment », eh bien, cette personne risque de ne pas savoir à quoi sert cette parole que Dieu lui a dit et n'en fera rien, donc restera sur place et certainement va passer à côté d'un tournant dans sa vie. Ou alors, cette personne ne prendra pas au sérieux la parole de Dieu parce qu'elle ne prend pas au sérieux ses propres paroles. Quelqu'un a dit, la force de vie contenue dans le souffle de Dieu et insufflée dans nos narines fait que nous parlons. La force qui constitue notre esprit de vie se manifeste par notre capacité d'exprimer clairement notre être le plus profond par notre parole. Nous exhalons le souffle divin qui est en nous à travers les paroles que nous prononçons. C'est le souffle qui sort de la bouche de l'homme à une dimension divine. L'être humain a donc la responsabilité d'en préserver la pureté et la sainteté. Dans ce silence, je vais vous donner Nombre chapitre 30, verset 3. Il est dit, lorsqu'une femme, bien évidemment, aura fait un vœu au Seigneur ou aura pris sous serment un engagement pour lui-même, il ne violera pas sa parole. Il se conformera exactement à la promesse sortie de sa bouche. Une autre version dit, il ne doit pas manquer à sa parole. Une autre version dit, il ne profanera point sa parole. Le verbe profaner en hébreu, halol, parle de la valeur d'un élément sanctifié qui a été diminué. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose qui est profané, c'est ceux qui étaient sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui étaient mis au service divin, s'il est profané, cela veut dire qu'il est rabaissé au plan humain. Quand il est dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, eh bien cela veut dire que tu as sanctifié quelque chose par ta parole. Ta parole a prononcé quelque chose à l'existence. Et le Seigneur dit que si nous profanons notre parole, si nous manquons à notre parole, si nous violons notre propre parole, cette parole qui contenait le souffle divin, qui a été prononcée pour servir, pour être au service de Dieu, cette parole est rabaissée au plan humain. On parle de quoi ? On parle d'exercer notre foi par l'usage de la parole. On parle qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous croyons et ce que nous disons. Du moins, il ne devrait pas y en avoir. Parce que la parole est mise, contient le souffle de Dieu et est mise au service de Dieu. Mais combien d'êtres humains se servent de leur parole pour eux-mêmes ? Et après, s'ils sont chrétiens, ils se demandent pourquoi il n'y a aucun résultat à la foi qu'il parle. Pourquoi n'y a-t-il aucun résultat aux paroles qu'il prononce? Pourquoi Dieu n'entendrait-il pas les prières? Parce que la prière, ce sont aussi des paroles qui sont prononcées. Ben, la question est, que faisons-nous? Comment nous servons-nous de nos paroles qui contiennent le sens, le souffle divin? Il y a quelqu'un qui a commenté ce verset de cette manière, il dit « Il ne profanera pas sa parole, c'est-à-dire il ne fera pas de ses paroles quelque chose de profane. » On voit que les paroles sont tellement importantes qu'elles impactent le temps. Dans Lévitique chapitre 23, 1 à 2 et verset 4, Dieu parle à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, il y a des temps spéciaux que vous devez désigner comme fête sacrée à Dieu. Voici mes temps spéciaux. » Une autre version dit, « Voici les fêtes de l'Éternel, convocation sainte, que vous désignerez comme fête sacrée en leur temps. » Alors, il faut savoir que le calendrier biblique repose sur les cycles lunaires et non pas solaires du calendrier grégorien. Donc, pour fixer les dates des fêtes juives, comme par exemple là, il va y avoir Rosh Hashanah, il va y avoir Kippour, il va y avoir Sukkot, il va y avoir toutes ces fêtes-là, ça y est, c'est pratiquement parti là. Eh bien, pour savoir quand la fête, comment établir le calendrier des fêtes solennelles, et puis rappelons-nous, pour ceux qui ont suivi cette série, que les fêtes bibliques sont appelées des moèdes, c'est-à-dire des rendez-vous. À chaque fête qui est célébrée, Dieu a un rendez-vous avec ou bien ceux qui la célèbrent, ou avec les nations. Donc, vous imaginez louper un rendez-vous avec Dieu. Tu loupes un rendez-vous chez ton dentiste, bon, peut-être que tu vas rester avec un mal de dents un peu plus longtemps que prévu. Tu loupes ton rendez-vous chez le coiffeur, tu restes chez toi et tu ne sors plus jusqu'au prochain rendez-vous. Tu loupes un rendez-vous chez le garagiste, bon, tu vas à pied, peut-être. Mais tu loupes un rendez-vous avec Dieu. Donc, Dieu a fixé des rendez-vous et ces rendez-vous sont l'occasion de fête, sont l'occasion de cérémonie. Mais comment fixer les rendez-vous ? Eh bien, avant que le temple ne soit détruit, le Sanhédrin, c'est-à-dire un tribunal religieux, se rassemblait. Il y avait plusieurs personnes là Et à la nouvelle lune, eh bien, ils disaient, oui, nous constatons, ils regardaient le ciel, ils observaient, et ils disaient, eh bien, oui, nous constatons que cette nouvelle lune, c'est le point de départ du calendrier. Cette nouvelle lune, eh bien, à chaque nouvelle lune, voilà ce qui va se passer. Et quand tous ceux qui avaient observé étaient d'accord, eh bien, le Sanhédrin déclarait, c'est sanctifié. Et tous ceux qui étaient là disaient, c'est sanctifié, c'est-à-dire, c'est mis à part, c'est mis à part. Uniquement par la parole, ils marquaient le temps. Quand par ta parole, tu dis, tu sais, on se donne rendez-vous à 15 heures pour prendre un café ensemble, à ton niveau, tu marques le temps. Quand tu dis à ton employeur, oui, et d'accord, ok, vous voulez que je sois là à quelle heure? À 8 heures le matin pour me présenter au travail, tu marques le temps. Et la Bible nous dit que si nous profanons notre parole, alors que nous sommes à la ressemblance de Dieu, la Bible dit que nous rabaissons la parole au niveau humain. Nous rabaissons le souffle de Dieu sur le plan humain. La parole est tellement importante qu'elle a la puissance d'unir un couple. On voit par exemple avec les vœux, dans Nombre chapitre 30, versets 2 à 3, Moïse parla au chef des enfants, au chef des tribus des enfants d'Israël en ces termes. Voici la chose que Dieu a ordonnée. Si un homme fait un vœu au Seigneur ou s'impose par serment une interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. C'est-à-dire que quand on fait un vœu, ça ne devrait pas être une parole en l'air. Un vœu ne constitue pas seulement une obligation morale. Un vœu a le pouvoir de changer la réalité. Comme par exemple les vœux du mariage. La parole est tellement importante que quand nous la libérons avec foi, elle a la puissance de se matérialiser. Et la parole est tellement importante que même dans le livre de Lévitique, il est dit « Tu n'insulteras pas un sourd ». C'est-à-dire, même si la personne n'entend pas, il y a quelqu'un qui entend et le principe de la parole, le processus enclenché, quand une parole est lancée, eh bien, va s'accomplir. Et dans ces cas-là, ça va être contre la personne qui a insulté, bien évidemment. La capacité de parler fait de l'être humain un être sociable. À lui de préserver les relations. La Bible nous dit, par exemple, dans Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Une autre version dit, dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Et il y a cette traduction-là, The Message, qui dit, ne dites pas ce que vous ne voulez pas vraiment dire. Les jeunes, ne dites pas à une copine qui a de beaux yeux, je t'aime. Dis pas ces choses à la légère. Parce que la Bible dit, nous nous lions avec nos paroles. Et il y a des gens qui se sont retrouvés mariés avec des gens avec qui ils n'auraient pas dû. Uniquement à cause de cela. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas vraiment dire. Ah, oh, dis donc, qu'est-ce que j'aime ta coupe de cheveux? Alors qu'au fond de vous, vous dites, ah, oh, dis donc, t'as l'air d'un chou-fleur, là. Ne dites pas à votre patron, oui, c'est un beau projet. Alors vous savez qu'au fond de vous-même, il n'intéressera personne ou il n'est pas viable. Ce conseil est profondément ancré dans nos traditions. Vous ne faites qu'aggraver les choses lorsque vous posez un écran de fumée sur des propos pieux en disant « Je vais prier pour vous » alors que vous ne le ferez pas. Ou en disant « Que Dieu soit avec vous » sans vouloir le penser. Vous ne rendez pas vos mots plus vrais en les embellissant avec de la dentelle religieuse. C'est bien dit, hein ? C'est pas de moi, je l'ai traduit juste d'une Bible. En rendant votre discours plus religieux, il devient moins vrai. Il suffit de dire oui et non. Lorsque vous manipulez des mots pour obtenir ce que vous voulez, vous vous trompez. Quelquefois, on pense que l'on trompe la personne à qui on les exprime, mais non. La Bible dit « nous nous trompons nous-mêmes ». Pourquoi ? Parce que nous apprenons à utiliser en vain des paroles qui contiennent le souffle de Dieu et qui devraient être libérées sur terre pour bâtir le royaume de Dieu. Par exemple, vous savez, quelquefois je vais dans des conférences et il y a des personnes qui viennent me trouver à la fin et puis qui me disent « oh là là, pasteur, voilà, j'ai tel problème ». Et je n'ai jamais le temps, après une conférence, d'entendre les problèmes de quelqu'un que je ne connais pas, parce que cette personne a son propre pasteur. Mais la personne, quelquefois, dit « alors, vous prierez pour moi, hein, style, tu vas prier pour moi, tu vois, je sais que Dieu t'entend, tu vas prier pour moi, hein, et ma situation vient changer, même si moi, j'ai rien à changer, le fait que toi, tu pries, ma situation va changer. » Et ça, c'est un leurre. Donc, je ne dis pas oui. Point. Je dis oui si le Saint-Esprit me conduit. Et ce qui est vrai, si le Saint-Esprit, quelquefois le Saint-Esprit me rappelle le visage de quelqu'un que j'ai vu il y a 3 ans. Bon, je connais le langage du Saint-Esprit. J'élève cette personne au Seigneur. Mais si le Saint-Esprit ne me le dit pas, je ne prierai pas pour cette personne. Vous allez dire, oula, c'est méchant ça. Non, c'est juste honnête. Ça veut dire que ce n'est pas à moi de le faire. Et si ce n'est pas à moi de le faire, je ne vais pas mentir à cette personne et en plus me mentir. J'en ai choqué certains, mais c'est pas grave. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 3, versets 7 à 12, « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, c'est-à-dire sans Dieu. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire qu'on a la possibilité par notre bouche de faire sortir la bénédiction et si on veut, la malédiction parce que nous sommes libres. Et la Bible dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne ? Des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Pourquoi de l'eau salée ne peut pas produire de l'eau douce ? Parce que la Bible dit que notre parole devrait être assaisonnée de sel. C'est-à-dire que quand nous ouvrons la bouche, à cause de la vie de Dieu qui est en nous, nous devrions donner soif aux gens d'imiter Dieu. Nous devrions donner soif aux gens de chercher Dieu. Et puis ensuite, eh bien, il y a dans... On est en train de se demander, existe-t-il des paroles en l'air ? Vous savez qu'il y a 2 chapitres dans Lévitique 13 et 14 qui parlent de la calomnie. La Bible dit qu'il y a un lien étroit entre nos paroles et notre santé. Pour les anciens, dans l'Ancien Testament, la lèpre était une punition pour avoir calomnié et répandu des ragots malveillants. C'est-à-dire dans le but d'atteindre la réputation publique de quelqu'un. Et en retour, eh bien, ces personnes-là qui cherchaient à saper la réputation d'autres individus ou à détruire des couples ou à utiliser leur parole de manière malveillante, la Bible nous dit que ça se retraduisait par quelque chose de visible qui venait sur eux. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, on a tellement de bons médicaments que même si quelqu'un... On réalise. La Bible nous dit que si une personne, eh bien, se repentait, cette maladie partait. Mais comment partait-elle ? D'abord, quand quelqu'un, eh bien, disait, tu sais, j'ai un problème de peau là. Bon, ben, il peut y avoir des dartes, il peut y avoir des inflammations, il peut y avoir toutes sortes. Mais la lèpre, c'est autre chose. C'est parce que la lèpre va s'attaquer au centre nerveux, c'est-à-dire à la sensibilité de la personne. C'est une maladie particulière. Donc, quand les gens étaient atteints de lèpre, eh bien, ils allaient perdre une certaine sensibilité, hormis le fait que c'était relativement hideux, parce que ce sont les bouts des membres qui littéralement tombent. Ça peut être les doigts des mains, les doigts des pieds, le nez qui tombe, etc. Donc, autrefois, quand quelqu'un avait la lèpre, ça n'était pas « Ouh, t'as mauvaise mine, toi !» C'était quoi ? Mais qu'est-ce que tu as dit ? Et la personne devait aller se montrer au sacrificateur, c'est-à-dire au prêtre, aujourd'hui ça aurait été au pasteur, et dit « Écoute, est-ce que tu peux confirmer que j'ai la lèpre ou au contraire que je suis encore pur ?» Alors c'était relativement humiliant parce que le sacrificateur devait examiner chaque morceau de peau, chaque cheveu. Et si le sacrificateur disait « Tu as la lèpre », alors il y avait une période pendant laquelle la personne était bannie, mais bannie de la société. Ben, il y a une chose, c'est qu'elle cessait de faire du mal dans ces cas-là. Et pendant ce temps-là, eh bien, la personne devait réfléchir sur ce qu'elle avait fait. Pourquoi ? Parce qu'il était tout à fait possible qu'elle soit débarrassée, délivrée de cette maladie. Dans ces cas-là, si elle disait, tu sais, moi je pense que c'est bon, je suis guérie, il y a des traces, mais je suis guérie, la personne retournait se faire examiner par le sacrificateur, rebeu, qui examinait, qui regardait ses cheveux, hein, rebelote, oui, qui examinait ses cheveux, etc. Bah, les mots évoluent, hein. Et donc, quand le sacrificateur disait non, ça y est, tu es débarrassé, je pense que cette personne-là, qui avait cherché à briser la vie de quelqu'un, qui en retour avait vu sa propre vie brisée, qui avait cherché à rompre, à affecter, à atteindre, à détruire des relations entre des gens, a vu ses propres relations avec son propre monde interrompu, ben, y a de grandes chances que cette personne, quand elle retournait dans la société parce qu'elle avait été déclarée pure, ben, cette personne, cette fois-ci, elle comprenait le poids des mots et elle se taisait. Ou au moins, ce qu'elle parlait, c'était la bénédiction qui sortait de sa bouche. Vous savez, on ne se rend pas toujours compte de la valeur de nos propres mots, mais en tout cas, la Bible nous dit que les mots nous contiennent ce souffle divin. La Bible nous dit dans, et je vais finir par quelque chose quand même, parce que vous dites, oulala, pasteur. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36, il est dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Une autre version dit que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole oiseuse qu'ils auront dite. Oui, c'est la Bible Martin. C'est-à-dire de toute parole stérile. Utilisée pour parler des gens qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Lorsque vous insultez une personne et que vos paroles lui causent de la peine, vous touchez à sa dignité. Le plus haut niveau de bonté est d'aider l'autre à se forger une image de soi positive. À l'inverse, le pire des crimes est de dérober son estime de soi à autrui ou même de la lui rabaisser. Des paroles oiseuses, existe-t-il des paroles vaines ? Existe-t-il des paroles en l'air ? Dans un sens, oui, il est possible de les prononcer. Mais la Bible nous dit que nos paroles devraient servir à construire autour de nous, devraient chercher à édifier, devraient chercher à amener le royaume de Dieu sur terre. Et la Bible dit que si nous n'avons pas utilisé des paroles vainement, eh bien, le Seigneur nous dira, au lieu de construire avec tes mots, qu'as-tu fait ? À vrai dire, le Seigneur nous dira, qu'as-tu construit pour moi ? Et ce ne sera pas à la force de notre chair, parce qu'on en sera débarrassé. Comment construisons-nous notre famille ? Comment construisons-nous ce qui se passe à notre travail ? Que disons-nous sur la société, sur notre quartier ? sur les amis. Comment utilisons-nous ces paroles? Est-ce qu'elles gardent leur degré divin ou sont-elles rabaissées au niveau humain uniquement pour notre propre utilisation charnelle et égoïste? Vous savez, il y a un scientifique japonais, vous en avez peut-être entendu parler, Masaru Emoto, oui, c'est japonais, qui a réalisé des expériences pour mesurer, attendez, hein, vous êtes prêts pour les images tout à l'heure? Pour mesurer l'effet de la parole sur une molécule d'eau. Il a déposé devant lui, c'est ainsi qu'il procédait, il mettait devant lui deux verres d'eau. L'un d'entre eux, devant un verre d'eau, il prononçait des louanges, des mots doux, des mots positifs. Et devant l'autre, il proférait des injures ou il parlait mal. Il a analysé les molécules d'eau après congélation. Dans le premier verre, il y avait des cristaux magnifiques et très harmonieux. Les molécules d'eau du second verre présentaient, quant à elles, un aspect laid et repoussant. Si les paroles ont un impact sur l'aspect des molécules d'eau, combien peuvent-elles en avoir encore plus sur un être humain? Et je dirais surtout sur un enfant ou sur son conjoint. Combien un enfant se nourrit de compliments qui le valorisent et construisent sa confiance en lui? Combien une parole douce peut apporter du réconfort et transformer la journée d'un conjoint, d'une amie, d'un parent et le soutenir dans son quotidien? J'aimerais que l'on montre, je vous ai apporté les images. Voilà, alors devant... Ça, vous comprenez que c'était dans un premier verre. Ce sont des paroles, ça peut être... Alors, quelquefois, sur certaines images, il est dit ce qui était parlé, des paroles d'amour. Mais c'est beau, hein? Une autre. Ça, quand il était... Il y avait certainement des musiques concernant la présence angélique. Là, c'est merci à gauche. Et regardez la molécule d'eau dans le deuxième verre quand il disait « je vais te tuer ». Malheureusement, il y a des couples qui se parlent comme cela. Il y a des parents aujourd'hui qui disent à leurs enfants ce genre de paroles. On va garder ça devant. Notre corps. Il est constitué de quoi? À peu près 70%, d'après ce que je comprends. Bon, à 1% près. Mais on le sait, ça. Qu'est-ce que ces paroles font dans le corps d'un enfant? On se demande pourquoi il y a des jeunes qui sont dépressifs. On se demande pourquoi il y a des gens qui sont malades. On continue. On se demande pourquoi il y a des gens qui sont en bonne santé. Vous savez pourquoi la... Non, s'il te plaît, trop tôt. Vous savez pourquoi la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Pourquoi? Ben, voilà ce qui se passe. Tu es beau quand tu t'aimes. Quand tu parles sur toi des paroles qui sont vraies, qui sont justes, qui sont pleines d'amour, parce que tu crois que c'est ce que Dieu pense de toi. Dieu t'aime, Dieu est fou amoureux de toi. Dieu pense le meilleur de toi. Et Dieu parle bien de toi. Si en grandissant tu as appris à te haïr, change ce que tu dis. Présente-toi chaque matin devant ton miroir et dit, tu es beau, tu es belle, je t'aime. Mais ça, mes amis, ça c'est scientifique. Hein. C'est, j'utilise quelque chose que la science a découvert comme pour illustrer ce que la Bible dit, mais on continue. Voilà encore une belle image Ça, c'est une molécule qui a entendu de belles choses. Alors, les belles choses ne sont pas que parler. Les belles choses peuvent être chantées. Pour ceux qui aiment chanter sous leur douche, imaginez ce qui vous plaît dessus. Ce qu'il vous pleut dessus. Hein, vous n'allez plus voir la pluie qui tombe de la même manière. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit « I sing under the rain hein ». Pour être sûr que ce qui lui tombait dessus, c'était beau. On continue. Voilà, ici, c'est de l'eau qui a entendu des mauvaises choses. Regardez la forme qu'elle a. Toi, idiot. You fool. Toi, idiot. Tu me dégoûtes. Ben, c'est aussi ce que certains se disent à eux-mêmes. Hein. Arrêtez de pécher, c'est simple. Ensuite, merci. Vous imaginez quand on est en train de dire merci à Seigneur, ce qui se passe dans notre corps. Mais franchement, c'est le côté pratique. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on loue le Seigneur? Le Seigneur sait pourquoi il nous demande de faire certaines choses. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui soient guéris pendant la louange. Là, une goutte qui a entendu parler d'amour et de gratitude et d'harmonie. Et aucune, c'est comme les flocons de neige, hein, parce que c'est après congélation, aucune n'a la même forme. Est-ce que ce sont les dernières images? Voilà, alors, la musique, ça c'est une goutte, c'est de l'eau qui a été exposée à de la musique dure, heavy metal. La musique que l'on entend sont des sons, les paroles sont des sons. Exposé à du Mozart. Je crois que c'est tout, non? Alors, les paroles étant indissociables, les paroles sont une expression de notre foi. Et mes amis, nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu sur terre. Et ça commence par nos paroles, amen. Des paroles que nous libérons avec foi, libérons par la foi. Amen. Qu'est-ce qui se passerait si chacun osait parler la vie sur ses enfants, sur son conjoint? Si chacun osait parler la vie sur ses finances? La Bible dit « tu as ce que tu dis ». Et là, on le voit. Alors moi, je vous encourage à choisir les mots que vous prononcez sur votre avenir. Choisir les mots que vous prononcez sur votre santé. Choisir les mots que vous prononcez sur la fin de votre passage sur terre. Choisir le standing de vie. Parce que le libre arbitre nous aide et est là pour nous amener à choisir de manière à ce que quand on a choisi, on parle et les choses arrivent. Amen. Alors évidemment que ce que l'on parle, c'est pas ce qu'on a rêvé après avoir mangé une pizza. Ce que l'on parle, c'est ce que Dieu dit de nous. Ce qui veut dire, cherchons à savoir ce que Dieu dit de nous. Et Dieu n'a que de bonnes choses. Amen. Dis à ton voisin, tout va bien.